Chapitre 33. Dale et Lawrence traversèrent Main Street et s'arrêtèrent en dérapage contrôlé sur le parking le long du square. Dale passa la bandoulière du talkie-walkie par-dessus sa tête et mit l'appareil en marche. Ils avaient donné 15 minutes à Mike, Kevin et Arlen pour prendre position.
« Commando rouge à patrouille de choc. On est au square. Terminé. »«
Reçu, commando rouge. On est à nos postes. Terminé. »
répondit Mike d'une voix faible et brouillée par les parasites. Lawrence était prêt à partir, penché sur son guidon et souriant comme un débile. Mais Dale avait encore une question.
« Mike, » dit-il en abandonnant déjà leur code. « Ils risquent de voir les appareils ?»«
Ouais, on n'y peut rien. Mais surtout, fais attention que Sperling ne les voit pas. »
Dale se retourna avec inquiétude avant de comprendre que Mike plaisantait. « Ha ha, très drôle. »«
Commando rouge ?»«
Oui. » »«
Tâche de ne parler dans le talkie-walkie que quand le camion ne peut pas te voir. » Le reste du temps, garde-le en bandoulière. Ils ne le remarqueront sûrement pas.
Reçu,
répondit Dale. Dale regrettait de ne pas être armé. Ils avaient décidé de ne pas prendre le Savage, mais la patrouille de choc disposait du calibre 38 d'Arlène, du gros 45 du père de Kev et du fusil de la grand-mère de Mike.
On y va,
dit-il à son petit frère. Il repassa le talkie-walkie par-dessus son épaule et descendit Broad Avenue, Lawrence à son côté sur son petit vélo. En approchant de la rue dans laquelle habitait Sperling, Dale demanda
« Tu l'aurais vraiment dit à maman ?»«
Bien sûr. C'est moi qui l'ai découvert, c'est mon camion.
Pas question de le laisser derrière.
C'est à l'arrière du camion avec toutes les carcasses que tu vas finir si tu fais pas exactement ce que je te dis. Compris ?»
Le petit haussa les épaules. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de l'allée en fer à cheval de la maison des Ashley Montaigu.
« On ne peut pas le voir d'ici, »
chuchota Lawrence.
« Il faut faire le tour de la maison. »
« Un instant. »
Dale prit le talkie-walkie.
« Patrouille de choc, à vous. Terminé. »
Mike répondit au troisième appel.
« Nous prenons l'allée, »
dit Dale. Ils pédalèrent lentement en restant au milieu de l'allée pour éviter les broussailles et les branches. Soudain, Dale s'arrêta et se dissimula derrière un arbre. Lawrence l'imita.
« Patrouille de choc.
Patrouille de choc, ici commando rouge. »
« On t'écoute, commando rouge. »«
Je le vois. Juste à l'endroit où le mot m'a dit qu'il serait. »
Lawrence donna une bourrade à son frère.
« N'éteins pas, » dit Mike, « et laisse-moi prendre l'appareil. Je veux voir si on peut t'entendre comme ça. »
Dale obéit.
« Essaie. Un, deux, trois. »
Il releva le boîtier de plastique gris.
« Parfait, commando rouge. Je t'entends. Parle fort quand tu veux qu'on t'entende. On est prêt là. Et vous ?» Nous aussi.
Dale sentait la tension accumulée dans son corps. Ses mains pétrissaient son guidon.
Souviens-toi,
ajouta Mike d'une voix rauque.
Prends pas de risques. Je crois pas qu'il va essayer de vous avoir en ville et en plein jour. Mais s'il vous coupe la route, entrez dans un magasin ou un truc de ce genre, compris?
Ouais.
Et n'approchez pas trop du camion, même s'il n'y a aucune réaction,
insista Mike, bien qu'il aurait déjà fait toutes ses recommandations.
Après, retournez au square. Traînez pas dans ce coin. Reçu.
Il laissa tomber le talkie-walkie.
On y va,
dit-il d'une voix forte. Lawrence était un peu en tête. Ils remontèrent la dernière partie de l'allée et prirent un chemin plus étroit derrière les ruines. Garé entre un hangar rouillé et une serre aux vitres cassées, recouvert d'un vieux filet de branchages, le camion d'écarissage était presque invisible. Il avait l'air abandonné dans la lumière fade de cette journée lugubre et le pare-brise ne reflétait que le ciel gris. Lawrence descendit de vélo et regarda son frère. Dale se retourna pour vérifier qu'il n'y avait personne en vue.
Vas-y.
Ce n'étaient pas les projectiles qui manquaient par ici, car l'allée avait autrefois été dallée. Lawrence lança à 15 mètres un petit caillou gros comme le poing, avec suffisamment de précision pour qu'il aille rebondir sur le capot. La seconde pierre atteignit l'aile.
Pas de réaction,
dit Dale assez fort pour que le talkie-walkie transmette le message. Il jeta lui aussi une pierre et manqua sa cible. Son second tir fut meilleur. Le caillou atterrit sur le filet de camouflage. L'odeur des animaux en décomposition était très violente maintenant. Le troisième caillou, jeté de main de maître par Lawrence, toucha la barre métallique séparant les deux parties du pare-brise, et la troisième, un silex plat et dur, cassa le phare droit. Le camion était silencieux. Rien ne bougeait autour de lui. Lawrence s'impatientait presque.
Je ne crois pas que... »
commença Dale, mais soudain, le starter du camion d'équarrissage grinça. Le moteur rugit et l'engin sortit dans un bruit de ferraille, traversant l'espace entre les bâtiments, faisant voler en tous sens branchages et lambeaux de filets.
« Phil !»
hurla Dale. Il laissa tomber sa pierre et sauta sur son vélo. Son pied gauche manqua la pédale et il faillit se retrouver à califourchon sur la barre du milieu, mais il se rattrapa, fut à deux doigts de passer par-dessus le guidon, baissa la tête et pédala en danseuse de toutes ses forces. À 3 mètres devant lui, Lawrence en faisait autant. Sans un regard en arrière, les deux enfants descendirent la longue allée bordée de broussailles. À moins de 15 mètres, le rugissement et la puanteur du camion d'écarissage leur léchaient les talons comme un raz-de-marée.
« Arlène, passe-moi les briquets !» demanda Mike.
Ils étaient allongés derrière la vieille enseigne de la coopérative, sur le toit de tôle du silo, à 5 ou 6 mètres au-dessus du quai de chargement. Kevin était de l'autre côté du chemin, à plat ventre sur le toit de l'entrepôt. Arlène avait été chargée d'apporter les briquets et les avait vérifiés avant d'entrer dans Caton Road. Il tapota ses poches et ouvrit des yeux ronds.
« Je crois bien que... »
Mike saisit sa chemise et le souleva à demi.
« C'est pas le moment de faire le con, Jim !»
Arlène sortit 5 briquets, tous pleins à ras-bord. Son père en faisait collection et il traînait depuis 3 ans au fond d'un tiroir. Mike en lança 2 à Kevin, en mit 1 dans sa poche et s'accroupit derrière l'enseigne. Soudain, le talkie-walkie crachota et la voix de Dale retentit.
« Il est à nos trousses !»
Le camion d'écarissage était plus rapide qu'il ne l'avait imaginé. À grand renfort de vrombissements de moteur et de grincements de levier de vitesse, il faillit les rattraper avant qu'ils atteignent Main Street. Les grandes cours de chaque côté de la route ne menaient qu'aux talus de chemin de fer et à des champs de maïs. Quant à la rue Sperling, c'était un cul-de-sac. Dale rattrapa Lawrence, le dépassa et, quand il jeta un coup d'œil derrière lui, il vit se rapprocher la cabine rouge et la calandre rouillée du camion. Alors il tourna à droite et s'engouffra dans le square du kiosque à musique en faisant cliqueter le garde-boue avant de sa bicyclette. Les deux garçons passèrent chacun d'un côté du monument aux morts, se frayèrent un chemin entre les bancs du square et s'arrêtèrent sur le trottoir devant Parkside Café et la taverne de Carl. Dale, tête baissée sur son guidon et coude relevé, fronça les sourcils. Ça ne se passait pas du tout comme il l'avait prévu. Ils étaient censés attirer le camion sur Broad Avenue en direction du nord. Or, en continuant sur Main Street, c'était l'engin qui les obligeait à se diriger vers l'est.
« Viens !»
cria-t-il à Lawrence. Les deux bicyclettes sautèrent le rebord du trottoir, débouchèrent sous le nez d'un camion qui klaxonna et se retrouvèrent de l'autre côté de la rue, toujours en direction de l'est, mais tout près de l'intersection de Third Avenue. Le camion d'écarissage était à 50 mètres derrière eux et roulait bien à 60 à l'heure. Dale aperçut un mouvement derrière le pare-brise, et le camion fit une embardée pour se mettre au milieu de la route.
« Van Syke, ou qui que ce soit au volant de ce foutu engin, se moque éperdument qu'il y ait ou non des témoins. Il ne se gênera pas pour nous écraser en pleine ville. »
Ils passèrent un fossé d'évacuation d'eau, grimpèrent sur le trottoir de Third Avenue et continuèrent vers le nord maintenant. Un vieillard avec une canne leur cria quelque chose qu'ils n'entendirent pas. Le camion d'écarissage tourna derrière eux dans Third Avenue. Encore un pâté de maison et ils passeraient devant la maison où logeait Rune, puis devant Old Central, 2 endroits que Dale n'avait aucune envie de revoir. Mais un instant, il pensa traverser le terrain de jeu de l'école jusqu'à Depot Street et leur maison. Leur mère verrait alors ce démon qu'il poursuivrait avec son camion et appellerait Barney.
« À gauche !»
cria Dale. Lawrence tourna dans Church Street pour rejoindre Broad Avenue. Le camion atteignit le croisement 20 mètres derrière eux et dut ralentir pour laisser passer une camionnette. Dale reprit la tête, remonta Broad Avenue vers le nord et dépassa la bibliothèque. Ils étaient presque devant chez Madame Fodder quand Dale, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, s'aperçut que le véhicule ne les suivait plus. Il ne l'avait pas vu tourner dans Church Street.
« Merde !»
Il pila et son vélo fit presque un tête-à-queue. Lawrence s'arrêta à côté de lui et ils regardèrent en direction de Church Street. Le camion d'écarissage sortit d'une ruelle à 8 mètres derrière eux, surgissant aussi sournoisement qu'un chat des hortensias bordant la façade nord de la maison de la mère Fauderge. Lawrence fut le premier en selle. Il traversa l'avenue et prit la direction de la poste. Dale suivit et signala leur position sur le talkie-walkie, mais il n'entendit aucune réponse de Mike ou d'un autre. Le camion d'écarissage traversa aussi l'avenue et les poursuivit dans la ruelle, son pare-choc avant à moins de 10 mètres de la roue arrière de Dale. Avec un « Hourra !», Lawrence tourna à gauche dans la cour de Madame Andil, baissa la tête pour passer sous une corde à linge, laissa des traces de pneus dans le potager et fit jaillir une averse de gravillon en descendant l'allée de Madame Andil en direction de Church Street.
« On va semer le camion, mais on va encore vers le sud, la mauvaise direction !»
pensa Dale. En fait, ils ne le semèrent pas du tout. Le camion les suivit. Ses grosses roues arrachèrent des mottes de terre et de gazon du jardin de Madame Andil, la cabine arracha la corde à linge et l'engin continua décoré de draps et de robes à fleurs. Dans Church Street, ils tournèrent à droite et roulèrent en danseuse. Le camion accéléra à mort derrière eux. Un de ses phares était allumé. Juste avant Saint-Malachy, ils coupèrent entre une maison et un garage, tandis que le monstre roulait à toute allure dans la rue longeant la ligne de chemin de fer. Ensuite, les deux garçons remontèrent Fifth Avenue jusqu'à Depot Street. Ils étaient à bout de souffle maintenant. Le sursaut d'énergie provoqué par la peur s'estompait.
« Et on n'est même pas à mi-chemin !»
Le camion d'écarissage arriva presque avant eux à l'intersection de Depot Street et de Fifth Avenue. Dale l'aperçut, traversa la rue et s'engouffra dans la ruelle qui passait derrière la propriété des Staffney.
« C'est là que Mike a vu son ami le prêtre jeudi soir. Et s'il surgit devant moi et attrape mon guidon ?»
Il se retourna pour regarder Lawrence. L'enfant avait le visage écarlate, les cheveux aussi mouillés que s'il sortait de la douche, mais il croisa le regard de son frère et lui fit un grand sourire. Le camion suivait toujours. En traversant la cour de la dernière maison avant Caton Road, Dale hurla leur position dans le talkie-walkie. S'il s'en tirait, ce serait de justesse.
Et si le soldat ou une autre de ces créatures sort tout à coup des arbres, avec un groin s'étirant en entonnoir comme l'a décrit Mike ?
Fonce ! Cria-t-il à Lawrence. Ils tournèrent dans la clairière où le silo et les entrepôts abandonnés surgissaient des broussailles. Dale jeta un coup d'œil derrière lui et aperçut le camion d'écarissage arrêté. On aurait dit un gros chien féroce sachant sa proie acculée, mais restant néanmoins prudent. Lawrence reprit la tête comme prévu, suivant à toute vitesse le chemin entre le silo, avec son enseigne délavée sur le toit, et le grand entrepôt. Ce passage avait été aménagé pour que les véhicules puissent peser, charger et décharger leurs marchandises. Il était assez large pour le camion d'écarissage, mais tout juste. L'engin restait cependant immobile. Dale s'arrêta à l'entrée du décrochement menant à la bascule et attendit, une jambe à terre et l'autre sur la barre centrale de son vélo. Haletant, il regardait le camion à 20 mètres de lui.
« Et si Van Syck est armé ?»
Le moteur vrombit. Dale sentait la puanteur du chargement et distinguait les pattes raidies de quelques vaches et d'un cheval dépassant de la plateforme, et aussi les bras rouges et poilus du chauffeur. Mais le camion ne bougea pas.
Il attend peut-être des renforts. Et s'il avait une radio? S'il était en train d'appeler Rune et les autres?
Dale descendit de vélo. Il sentait la présence de ses amis derrière lui.
Enfin, s'ils sont là, peut-être qu'ils se sont déjà fait avoir. Et Lawrence aussi. Et que je suis piégé comme un rat.
Il leva le bras droit et fit un geste obscène en direction du chauffeur. Le camion d'écarissage bondit en avant dans un nuage de poussière et de gravier. Dale n'eut pas le temps de remonter sur son vélo. Il le poussa de côté et s'enfuit à toutes jambes entre le silo et l'entrepôt. Il n'avait pas atteint l'extrémité du bâtiment lorsqu'il entendit derrière lui le rugissement du moteur. Le briquet s'alluma du premier coup et enflamma les chiffons imbibés d'essence. Puis Mike se leva pour lancer la bouteille de coca pleine de carburant sur le toit de la cabine du camion. Ce qu'il vit lorsque l'engin passa sous ses yeux le fit hésiter une fraction de seconde, du coup son cocktail Molotov manqua la cabine et atterrit sur la plateforme. L'arrière du véhicule contenait non seulement des cadavres d'animaux, mais aussi des restes humains qui semblaient avoir été récemment déterrés de quelques tombes. De la terre, des haillons noircis et de la chair sombre desséchée de laquelle sortaient des os d'un blanc brillant. Mike lança une autre bouteille, Arlène l'imita une seconde plus tard, et tous deux regardèrent Kevin se lever et jeter la sienne du toit de l'entrepôt. Le cocktail Molotov de Mike éclata à l'arrière du camion, enflammant le ventre gonflé d'une vache, la viande desséchée d'un cheval et les haillons recouvrant plusieurs cadavres humains. Celui d'Arlène toucha l'arrière de la cabine qui fut aspergée d'essence, mais elle ne prit pas feu. La bouteille lancée par Kevin atteignit l'aile avant gauche et explosa en une boule de flamme. Dale bondit sur le côté quand il arriva au coin de l'entrepôt et faillit heurter de plein fouet Lawrence, toujours à vélo. Son petit frère semblait avoir l'intention de retourner sur le chemin. Mais le camion d'écarissage apparut soudain l'arrière en flammes, la roue avant gauche arrosant le sol de flammèches et de fragments de caoutchouc fondu. Mike et Arlène sortirent chacun une bouteille du sac de marin et coururent le long du toit du silo en approchant les briquets des chiffons trempés d'essence. Le camion d'écarissage dérapa sur le gravier de l'entrée arrière de la coopérative et fit plusieurs tours sur lui-même. Il était bel et bien coincé. Devant lui, les bois formaient une barrière infranchissable. À gauche, un entassement d'anciens rails et de vieilles traverses hauts de 2 mètres barrait sur 15 mètres l'accès à la petite rivière. À droite, un fossé en ciment de 2 mètres de large séparait la cour du silo du talus du chemin de fer. Pendant un instant, Mike pensa que le camion allait tenter de franchir cette tranchée, mais au dernier moment, le conducteur freina et tourna à gauche, faisant ainsi un demi-tour complet. Les deux roues arrière tournèrent un peu à vide, puis le camion revint droit sur Dale et Lawrence.
« Filez ! Dégagez !»
Mike, Arlène et Kevin hurlaient leurs conseils, mais les deux garçons n'en avaient pas besoin. Le vélo de Lawrence monta dans un bruit de ferraille sur une des rampes de chargement et Dale le suivit un instant plus tard. Ils disparurent sous le toit sur lequel Kevin, bouteille et briquet à la main, attendait le moment propice. Le camion apparut, les flammes du pare-choc et de la roue un peu moins hautes. Mike devina ce qu'allait faire Van Syck une seconde avant que le pare-choc en feu ne heurte la première colonne soutenant le toit sur lequel il était perché avec Arlène. Jim cria quelque chose. Tous deux allumèrent les mèches et jetèrent les cocktails Molotov. Puis le toit s'effondra avec eux et ils se retrouvèrent en bas dans un nuage de poussière. La bouteille d'Arlène explosa sur le capot. Une seconde plus tard, celle de Kevin toucha l'arrière de la cabine et enflamma l'essence dont elle était déjà aspergée. Kevin, préparant une troisième bouteille, courut vers l'avant de l'entrepôt. Le moteur du camion d'écarissage ronfla et le véhicule recula à toute vitesse sur les trois chemins. Van Syck avait apparemment l'intention d'écraser Mike et Arlène affalés dans les gravats. Il heurta violemment tôt les bois, pliant devant lui de grands pans du toit effondré, mais les poteaux cassés étaient profondément enfoncés dans le ciment et barraient la route au camion. En plus, les décombres du toit bloquaient le chemin. Mike se releva en chancelant, prit Arlène sous un bras et son sac de marin dans l'autre et s'approcha du quai de chargement à l'instant où le camion reculait. La partie gauche du pare-brise était en miettes. Mike aperçut un râtelier à fusil et un bras musclé se tendant dans cette direction juste au moment où Dale et Lawrence arrivaient devant l'entrepôt.
« Couchez-vous !»
hurla-t-il. Dale tira son frère et sauta derrière une pile de palettes une fraction de seconde avant que ne retentissent 2 coups de feu, puis un troisième. Une vitre poussiéreuse au-dessus des enfants vola en éclats. Mike avait perdu son briquet, mais il en avait gardé un en réserve dans sa poche. Il alluma la mèche et jeta la bouteille de coca sur la calandre du camion à 10 mètres de lui. Elle tomba tout près, roula sous la cabine et explosa, entourant de flammes le moteur et les roues avant. Il tira Arlène à l'abri. Une seconde plus tard, le fusil sortait du pare-brise cassé et tirait 2 coups. Un coin du vieil entrepôt s'effrita. Kevin jeta une autre bouteille sur le marchepied droit et encore une autre dans le tas de cadavres qui brûlait à l'arrière de l'engin. Le camion recula, fit demi-tour et redescendit le chemin, suivi d'une traînée de flammes. Au bout, il tourna à gauche et non à droite en direction de la ville.
« On l'a eu ! On l'a eu !»
exulta Arlène en faisant des bonds partout.
« Pas encore !»
dit Mike et il courut, chargé de son sac, chercher son vélo caché derrière le silo. C'est seulement à ce moment-là qu'il se rendit compte que le camion avait mis le feu aux parois de bois du silo et aux pans du toit effondré. Les flammes léchaient déjà l'entrepôt, où la sciure accumulée depuis des années et le bois bien sec s'enflammait plus vite que de l'essence. Dale courut récupérer sa bicyclette que le camion avait par miracle manqué à chacun de ses passages. Il redressa juste son guidon et sauta en selle après avoir pris de l'élan. Lawrence le dépassa à toute vitesse à la poursuite du camion. Mike, Kevin et Arlène enfourchèrent aussi leur vélo et suivirent, passant devant un autre silo qui brûlait déjà jusqu'au premier étage.
« Coupons à travers bois !»
cria Mike. Il s'attendait à voir le camion d'écarissage tourner à gauche dans Dump Road, le long de la ligne de chemin de fer en direction de l'ancienne gare de marchandises et de la ville, mais en sortant des broussailles, ils l'aperçurent, auréolé de flammes et d'un nuage de fumée noire, à une centaine de mètres devant eux, roulant tout droit vers la décharge. Les garçons baissèrent la tête et pédalèrent comme des forcenés. Leurs vélos dérapaient ou cahotaient sur les ornières et les pierres. Mike était en tête. Il rattrapa le camion d'écarissage à l'endroit où avaient habité les Cooks et une autre famille de miséreux. Les deux baraques paraissaient abandonnées. Quand il arriva au niveau du camion, Mike se débrouilla pour sortir une bouteille, la maintenir contre le guidon de la main gauche et extirper son briquet de sa poche. Le canon du fusil apparut à la vitre du conducteur. Mike freina et dérapa pour se placer derrière le camion. Puis il le dépassa sur la droite quand le véhicule aborda la dernière centaine de mètres avant la décharge. Dale, Lawrence, Arlene et Kevin le suivaient en file indienne. Mike entrevit pour la seconde fois le long visage de Van Syck. L'homme ricanait d'un air démoniaque à travers les flammes et la fumée qui s'échappaient du capot. Puis le fusil réapparut et Mike lança sa bouteille déjà enflammée par la vitre du passager. L'explosion fit tomber ce qui restait du pare-brise. La chaleur obligea Mike à ralentir et à se laisser doubler. Ce qu'il vit alors faillit le faire tomber de vélo dans le fossé. La carcasse de la vache ou celle du cheval, ou les deux, gonflées de méthane et d'autres gaz produits par la décomposition, explosèrent, projetant dans les bois de chaque côté une averse de flammes et de morceaux de viande putréfiée. Mais ce n'est pas cela qui l'étonna le plus. Les formes brunes, pourries, autrefois humaines, semblaient, à mesure que les flammes les engloutissaient, se tordre et lutter convulsivement. Ces morts arrachés à quelques cimetières essayaient de s'agenouiller, de se lever, mais comme ils n'avaient plus ni muscles, ni tendons, ni os, ils se débattaient, s'arc-boutaient, avant de retomber dans les bras les uns des autres, tandis que s'embrasait tout entier le monceau de cadavres. Le camion en flammes ne ralentit même pas devant la barrière marquant l'entrée de la décharge. Les planches se brisèrent avec un claquement sec, semblable à un coup de feu. Puis le gros camion cahota sur les ornières et les amoncellements de détritus avec les 5 bicyclettes à ses trousses. Il pénétra au cœur de l'amas d'ordures, vieux pneus, canapés éventrés, carcasses de voitures rouillées et déchets ménagers à demi décomposés, avant de bifurquer vers la gauche et de s'arrêter au bord d'un talus de 15 mètres, dans la partie du ravin que les ordures n'avaient pas encore remplie. Les enfants pilèrent 10 mètres derrière, attendant que le camion se retourne contre eux. Mais il ne bougea pas. La cabine et l'arrière étaient maintenant enveloppées de flammes.
« Personne ne peut survivre à ça !» chuchota Kevin bouche bée.
Comme si le conducteur l'avait entendu, la portière en feu s'ouvrit soudain et Carl Van Syck redescendit, le visage taché de suie et de sueur, les bras rougis, la bouche fendue d'un large sourire. Il tenait un fusil à lunettes entre ses grosses mains. Les enfants posèrent pied à terre et parcoururent du regard les alentours, qui n'offraient pas le moindre refuge immédiat. Le premier champ de maïs était à 30 ou 40 mètres, l'entrée de la décharge et les bois derrière à une bonne centaine.
« Couchez-vous !»
hurla Mike en laissant tomber son vélo devant lui. Il s'aplatit au pied d'une petite butte d'immondices. Les quatre autres se jetèrent à plat ventre et rampèrent en direction du moindre objet, pneu ou bidon rouillé, pouvant offrir quelque protection. Arlen avait son calibre 38 à la main, mais il était trop loin pour tirer. Van Syck avança de deux pas et épaula, visant soigneusement Mike. Personne n'avait remarqué la petite silhouette entourée de deux chiens qui venaient d'apparaître sur le plus gros tas d'ordures. Elle lâcha les chiens et dit doucement
« Chapleu !»
Quand Van Syck regarda à gauche, le Doberman Belzébuth n'était plus qu'à quelques mètres de lui. Il braqua son arme et tira, mais le molosse avait déjà bondi. Il planta ses crocs dans sa poitrine et le repoussa, toujours accroché à lui, dans la cabine embrasée. Le deuxième chien, Lucifer, suivit, grondant et essayant de mordre les jambes de Van Syck. Mike sortit de son sac le fusil de Memo, Kevin tira de sa ceinture le calibre 45, et les 5 enfants coururent vers le camion tandis que Cordy descendait du tas de déchets. En se débattant, Van Syck se coinça la jambe dans la vitre à moitié ouverte de la portière et la claqua sur lui et le chien. Cordy et Mike se précipitèrent, mais à cet instant, le réservoir du véhicule prit feu, envoyant 25 mètres plus haut un parfait champignon de flammes. Mike et la fillette, soufflés par l'explosion, se retrouvèrent par terre. Le bâtard de berger allemand atterrit, brûlé et hurlant à leurs pieds. Mais Belzébuth était toujours dans la cabine. Dale et Lawrence empoignèrent Mike et Cordy pour les tirer en arrière, tout en regardant les deux silhouettes noires qui continuaient à lutter dans un tourbillon de flammes oranges. Puis soudain, tout mouvement cessa et le camion continua de flamber, remplissant la décharge de la puanteur du caoutchouc brûlé et d'une autre odeur, bien pire. Les 6 enfants, pétrifiés, durent reculer à cause de la terrible chaleur. Mais ils ne pouvaient détacher leur regard de ce spectacle. Une sirène retentit derrière les bois aux alentours du silo. Une autre résonna dans Dump Road. Cordy pleurait et serrait dans ses bras son chien survivant. Il avait perdu presque tous ses poils.
« Vous aviez trouvé ma cachette, hein ?»
dit-elle entre deux sanglots.
« Vous pouviez pas me fiche la paix ?»
Arlène commença à protester. Comment aurait-il pu se douter qu'elle s'était réfugiée dans cette décharge pourrie ? Mais Mike l'interrompit d'un geste.
« Il y a une autre sortie. Il faut filer avant l'arrivée des pompiers. »
Cordy montra le maïs.
« Si vous suivez la voie de chemin de fer, on vous verra. Mais en coupant par le champ des Mianes, vous tomberez sur la route d'Oakil à 800 mètres à peu près. »
Ils coururent à la clôture de barbelés et l'escaladèrent après avoir jeté leur vélo par-dessus.
« Tu ne viens pas avec nous ?»
cria Dale à Cordy. Les sirènes se rapprochaient. La fillette, qui portait toujours son gros chien, avait grimpé sur une colline de déchets.
« Non ! Grouillez-vous ! »
Elle se retourna et cracha en direction de l'énorme bûcher qu'était devenu le camion d'écarissage.
« Au moins, cette ordure a fini par crever !»
s'écria-t-elle. Puis elle disparut derrière les buttes de détritus et de vieux pneus. Les garçons s'enfoncèrent dans le maïs juste un instant avant que la première voiture de pompiers, suivie d'un cortège d'autres véhicules, ne passe sur ce qui restait de la barrière. Ils eurent beaucoup de mal à pousser leur vélo sur presque un kilomètre de terre humide entre des rangées d'épis hauts de 2 mètres espacés de 30 cm, mais ils en vinrent à bout. Lorsqu'ils arrivèrent sur la route d'Oak Hill, la fumée montait toujours, noire et épaisse, de la décharge.